Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Paris 93.9 FM et sur Internet, c'est la matinale, on démarre.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Le 6 mai alors, là, on va être honnête, c'est un jour normal, trop normal peut-être. Le genre de journée où ton réveil te trahit, où ton café est trop pressé et finit sur ta chemise. Oui, encore lui, la tache de café. Elle arrive toujours au mauvais moment dans ces journées-là. Il se passe toujours quelque chose. Et en ce moment-là, il y a un sujet qui fait parler, le foot. Du côté du Paris Saint-Germain, gros rendez-vous ce soir. Demi-finale, retour de la Ligue des Champions, coup d'envoi à 21h, un match sous tension, une saison qui peut basculer et les supporters déjà en mode calculatrice émotionnelle. On connaît le scénario, espoir, stress, silence et explosion sur chaque action. Et puis, au-delà du sport, on est aussi dans une période chargée en actualité et en mémoire avec la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de l'abolition le 10 mai. Alors ce soir, entre émotions sportives, débats et actualités, on va essayer de rendre ce 6 mai un peu moins banal. Au sommaire de l'actualité et de ce matin de ce mercredi, nous allons recevoir Ilan Lay, premier vice-président de l'Association Générale des étudiants de Paris, avec une interview qui sera menée par Betty. Le Zoom sera conduit par Iskre avec Valentin Valéry autour du festival Cours d'Envol, un festival de courts-métrages étudiants. Et Pierre Alexandre assurera le Flash Info. Eve sera au gouvernail pour la chronique Actu et Jonas prendra en charge la chronique Libre. Elena sera toujours à la réalisation. On va donc commencer tout à l'heure.
La matinale de 19h. 93.9 FM.
Nous commençons bien évidemment avec l'interview de la matinale. Aujourd'hui, nous recevons Ilan Lay, premier vice-président de l'AGEP. On va parler avec lui de la multiplication par 16 des frais d'inscription pour les étudiants extra-européens et de ses conséquences et de la remise en cause du principe d'universalité de l'enseignement supérieur. Cette interview est menée par Betty. Betty, bonjour.
Bonjour Patrick.
C'est à toi.
Bonjour, bonsoir, Ilan Lay, merci d'être avec nous. Donc, comme le disait Patrick juste avant, vous êtes le vice-président de l'AGEP, donc l'Association Générale des étudiants et étudiantes de Paris. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est que l'AGEP, quelles sont vos actions, quelle est la structure?
Bien sûr, alors l'AGEP, c'est l'Association Générale des étudiants de Paris. On est la première fédération associative étudiante à Paris. On fédère une cinquantaine d'assos des différentes universités et écoles parisiennes. Et donc, c'est des assos qui font toutes sortes de projets pour animer la vie étudiante et la solidarité sur les campus tous les jours, qu'on accompagne et avec qui on travaille pour faire remonter aussi toutes les problématiques des étudiants parisiens sur tous les campus, aux différents élus, aux différents élus étudiants de l'AGEP, dans les universités, dans les conseils du CROUS, etc. Et pour porter un peu la voix des étudiants et des étudiantes parisiens, parisiennes.
Super. Et vos actions, donc, c'est... Enfin, vous allez parler Enfin, je veux bien que vous nous évoquiez quelques-unes de vos actions.
Eh bien, alors, du coup, on essaye d'améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants parisiens par deux façons. La première chose, c'est les projets concrets sur les campus. Mm-hmm. Par exemple, on tient une agorée, c'est une épicerie sociale et solidaire étudiante qui est ouverte deux fois par semaine et qui accueille chaque semaine des centaines d'étudiants à qui on propose des produits 10 fois moins chers que dans le commerce pour essayer de lutter à notre échelle contre la précarité étudiante. Mm-hmm. Et parce que, comme ça ne suffit pas, on fait aussi à côté du plaidoyer auprès des différents acteurs institutionnels, de la presse, sur votre antenne ce soir, pour essayer d'alerter sur la précarité étudiante et de proposer des solutions concrètes pour améliorer le quotidien de tous les étudiants et les étudiantes à Paris.
C'est très clair.
Merci.
Et donc on vous a invité aujourd'hui pour parler donc de cette différenciation qui va être faite de frais d'inscription entre les étudiants étrangers et européens, à rappeler donc pour les auditeurs que le 20 avril dernier, donc le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, si vous aviez oublié son nom et son prénom, a annoncé donc sa volonté de différencier les frais d'inscription entre les étudiants étrangers et européens, enfin non européens et européens. Cette distinction, si elle venait à être appliquée, donc on va en parler juste après, verrait les frais d'inscription, donc comme le disait Patrick, multipliés par 16 pour les étudiants étrangers, donc ce qui correspond environ à, ça pourrait atteindre pour les étudiants étrangers entre 3 000 et 4 000 euros selon qu'on soit en licence ou en master. Donc vous, votre association, elle condamne fermement ce projet.
Très fermement.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelles sont les raisons aussi de... On les comprend un peu quand j'énonce évidemment les choses, pourquoi vous le condamnez, mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu des éléments?
Alors, on le condamne pour de multiples raisons. La principale, c'est que c'est une rupture complète avec les valeurs d'accueil et d'ouverture, les valeurs humanistes qui sont celles de l'université depuis des siècles maintenant. Le mot université vient d'universalité et c'est un concept qui est même antérieur au concept de nation. Mm. Et donc l'université est bâtie pour accueillir les savoirs, la construction des savoirs de toutes et de tous. Alors que si ça venait à être mis en place, ce serait une mesure qui, au contraire, appliquerait un tri social, on ne peut pas l'appeler autrement, un tri social généralisé à l'université, motivé par des raisons xénophobes, alors même que les étudiants et les étudiantes sont de plus en plus précaires, en particulier les étudiants internationaux et internationales, qui sont encore plus précaires que les étudiants de nationalité française. Il y a plusieurs chiffres qui le montrent. Par exemple, l'Observatoire de la vie étudiante qui nous dit qu'il y a à peu près 40% des étudiants de nationalité internationaux qui ont déjà été en situation économique qui ne leur permettait pas de subvenir à tous leurs besoins. C'est deux fois plus que pour les étudiants de nationalité française, alors que les étudiants internationaux sont nos camarades et une richesse culturelle, économique, scientifique pour la France. Et il n'y a aucun justificatif à part la xénophobie pour cette mesure.
Surtout qu'on sait que le gel des APL, enfin des aides aux APL, ouais, vont être aussi supprimées pour les étudiants étrangers à la rentrée prochaine. Enfin, si j'ai
C'est pas le gel des APL, c'est le droit aux APL.
Le droit aux APL, c'est vrai, tout court. Oui.
Ça a été voté dans le projet de loi de finances 2026. À partir de juillet, les étudiants de nationalité hors Union européenne n'auront plus droit aux APL. Donc concrètement, ils vont perdre 250 euros par mois. Pour la plupart, ce qui pèse énormément dans le budget d'un étudiant. Et en fait, c'est dans un contexte global d'attaque contre les étudiants internationaux. On peut aussi parler de toute la précarité, non seulement économique, mais aussi administrative, dont sont victimes ces étudiants. Et donc c'est un contexte très dur et qu'on dénonce très fermement.
Certains, ils argumentent contre le décret en invoquant notamment le caractère temporel, en disant il n'y a pas le temps en fait de mettre en place le décret, sachant qu'en fait, si on rentre un peu dans la complexité de ce décret, c'est un décret qui existe en fait depuis 2019. Ces frais d'inscription, normalement, les universités ont le devoir, selon l'État, de demander des frais d'inscription de cet ordre déjà aux étudiants étrangers, mais les universités refusent et font des exonérations de frais d'inscription aux élèves. Sauf que là, en fait, l'État reprend un peu sa centre. Il y a cette idée de centralité, de recentralisation de l'université par l'État qui est donc remis en cause par vous et d'autres associations. Donc, il y a certaines personnes qui parlent de ce caractère temporel en disant on n'a pas le temps, le décret il est irréalisable avant la rentrée prochaine puisqu'on a déjà, on est déjà en fin d'année, les affectations elles sont déjà faites, etc., etc. Est-ce que pour vous c'est un bon argument ce caractère temporel ou il faut dépasser cet argument-là?
Je pense qu'il faut le dépasser. La principale raison, c'est que les universités, je pense notamment à France Université qui regroupe l'association qui regroupe les présidents d'universités et les présidentes d'universités partout en France, dénoncent très fermement ce décret. Et il n'y a pas que les organisations étudiantes qui s'y sont opposées, mais également tous les chercheurs, les chercheuses. Je rappelle que près de la moitié des étudiants, des doctorants en sciences en France sont internationaux. Donc le rayonnement de la recherche française dépend des apports de l'étranger. Et je pense qu'il y a la question évidemment, c'est que les universités, on va si on passe d'un principe d'exonération généralisée, comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire que l'université peut décider que tous les étudiants de son université n'auront pas à payer les frais d'inscription différenciés à 3000 euros en licence et 4000 euros en master, ce qui est le cas actuellement dans trois quarts des universités qui décident de faire les mêmes frais d'inscription pour tout le monde.
Le décret existe, ouais. En fait, c'est ça qu'il faut expliquer aux auditeurs.
Les universités ont la possibilité de le faire depuis 2019.
Voilà, c'est ça.
Et le décret actuel, le projet de décret qui a été annoncé, viserait à empêcher les universités d'exonérer leurs étudiants.
Donc à obliger qu'ils fassent...
Et donc on passerait d'une logique d'exonération généralisée à une exonération individuelle, où ce serait les étudiants qui devraient en faire la demande, en justifiant d'une situation individuelle particulière, et les universités qui devraient traiter individuellement les cas. Donc on imagine toute la paperasse et la lourdeur administrative, alors
tout
que les administrations universitaires sont déjà surchargées. Fait les frais tous les jours. Les universités ne pourraient exonérer plus que 10% des étudiants extra-européens. Et donc oui, il y a un problème de temporalité, mais c'est plus que ça. C'est une attaque qui est grave profondément, qui est révoltante pour beaucoup, beaucoup d'autres raisons.
Tout à fait. C'est très intéressant. Vous condamnez également le décret en cela qu'il invite donc les universités à cibler les 10% d'exonération de frais d'inscription pour des étudiants étrangers. C'était pas très clair. Parce qu'en fait, l'idée aussi du gouvernement, c'est de cibler, enfin, en tout cas, que les étudiants étrangers s'inscrivent dans des filières qui ont un intérêt économique pour l'État. Puisque quand j'ai regardé un petit peu le décret, l'idée, c'est aussi, parce que, enfin, dans ce que disait aussi Philippe Baptiste dans Le Parisien quand il présentait ce décret, il expliquait qu'il nous manquait des milliers d'ingénieurs, des milliers de techniciens sur certains types de techniques. Donc, on sait, des secteurs qui ont besoin pour réindustrialiser le pays de main-d'œuvre. Et vous, en fait, je voulais un peu vous questionner sur ça. Je me doute de votre réponse, mais ça m'intéresse un peu. Pour vous, l'enseignement supérieur, est-ce qu'il doit servir des intérêts économiques nationaux ? Est-ce que ça s'entend, cet argument-là ?
Il me semble que la principale mission de l'enseignement supérieur, c'est de permettre à chacun et à chacune d'apprendre les connaissances et les compétences qu'il a envie d'apprendre et qui lui permettront de s'épanouir. Et nous, on pousse pour une logique, que ce qui motive les politiques d'enseignement supérieur, ce soit l'émancipation des jeunes, ce soit la lutte contre la précarité et permettre à chacun et chacune de s'autonomiser et de comprendre et trouver sa place dans la société grâce à la connaissance, grâce à la recherche. Et donc c'est pas aux intérêts, enfin voilà, on comprend que les intérêts économiques puissent rentrer dans la balance, mais c'est pas aux entreprises de dicter ce que doivent apprendre les étudiants. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui, dans certaines universités, ont un poids très important, notamment dans la définition des projets de recherche et des doctorants, dans la sélection des étudiants à l'école doctorale, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on dénonce. Et on aimerait entendre plus parler d'émancipation des jeunes que de logique économique pour le service public universitaire.
Carrément. Et quelles actions un peu sont prévues du coup prochainement pour essayer de permettre d'éviter la mise en place de ce décret dans les universités.
S'il y a une action que celles et ceux qui nous écoutent doivent retenir, c'est la date du 12 mai, mardi prochain, à midi. Il y a des manifestations partout en France et en particulier à Paris. On part devant Jussieu, dans le 5e arrondissement, à midi, pour aller devant le ministère de l'enseignement supérieur. Et donc, j'appelle toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à nous rejoindre, parce qu'on a besoin de monde pour montrer l'opposition de toute la communauté universitaire à ce décret. Et donc, on est déjà mobilisés sur les campus pour appeler à la manifestation, dans les amphithéâtres, dans les restaurants universitaires, etc. Parce que c'est un projet de décret. Il faut bien comprendre que c'est pas un projet de loi ou quoi que ce soit. Ça n'a pas à être voté par l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Il y a vraiment juste besoin de la signature du ministre pour que ce décret soit appliqué.
Ok. Donc c'est.
Et donc il y a que la mobilisation populaire qui permettra de faire.
Okay. Et il y a quelles autres associations qui sont derrière vous
Toute l'intersyndicale de l'enseignement supérieur.
Okay.
Les organisations étudiantes comme les représentants des personnels, des professeurs, etc. C'est un soutien assez unanime. Enfin, une opposition très unanime à ce décret.
Très intéressant, je ne sais pas si Patrick...
Merci à vous pour DJ, tout ça, on va faire une petite pause musicale, laissez-vous porter par cette sonorité unique, Bayreuther World Apart. On va continuer avec l'actu, l'interview de ce jour, bien évidemment. Nous sommes dans la matinale, vous écoutez Radio Campus 93.9 et nous émettons depuis le cœur de Paris. Nous revenons sur l'interview de cette journée avec, bien évidemment, notre invité Iliane Lé, premier vice-président de l'Association générale des étudiants et étudiantes de Paris, pour parler de la multiplication par 16 des frais d'inscription pour les étudiants extra-européens.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Betty, la
c'est
suite
à moi.
De l'interview.
C'est bon, je suis là. Iliane Lé, donc je rappelle votre nom et prénom. Donc vous êtes vice-présidente de l'AGEP. Et donc, on était en train de parler de la précarité étudiante et notamment de la précarité étudiante des étudiants étrangers, enfin non européens. Et on parlait donc de cette augmentation des frais d'inscription x16 qui va être mis en place, enfin qui risque d'être mis en place à la rentrée prochaine pour les étudiants étrangers. Et un des arguments de l'État, c'est de évoquer le fait que l'augmentation, donc on est dans une situation budgétaire compliquée, financière compliquée pour le pays. Au niveau de l'université, il manque énormément d'argent aux universités publiques françaises. Et l'idée, un des arguments de l'État, c'est aussi de dire que ça peut être une manne financière de faire payer plus les étudiants non européens, en disant aussi qu'on s'aligne avec des pays comme l'Angleterre, enfin des pays territorialement assez proches de nous, qui ont des frais d'inscription qui sont beaucoup, beaucoup plus importants que nous. Mais je crois que vous voulez rappeler que les étudiants étrangers, en fait, ils apportent plus à l'État qu'ils n'en coûtent, en fait.
Oui, alors il y a deux choses. D'abord, il y a la question du budget des universités. Tous les ans, les organisations étudiantes et syndicales de l'enseignement supérieur se plaignent du budget alloué aux universités parce que factuellement il manque de l'argent. Il y a de plus en plus d'étudiants à l'université alors que les budgets sont en quasi stagnation depuis des années, et donc concrètement c'est des fermetures de classes, c'est des amphithéâtres en mauvais état, C'est des aides pour lutter contre la précarité étudiante qui sont insuffisantes. C'est voilà, des professeurs qui partent sans être remplacés, des administrations qui sont surchargées. Voilà. Est-ce qu'on c'est bon, on entend toujours.
On vous entend.
Et donc, un des arguments c'est avancé notamment par le ministère, c'est qu'il faudrait aller chercher... Enfin, cet argent-là serait nécessaire pour les étudiants, pour subvenir aux besoins de l'université. C'est faux, ça ne suffira pas du tout. Je crois que le ministre espère récupérer 250 millions d'euros par an.
Exactement. Ouais.
Ce n'est pas du tout l'ordre de grandeur qui manque pour subvenir aux besoins de l'université. Et dans tous les cas, ce n'est pas une façon acceptable de récupérer de l'argent.
Ouais.
Et la réalité, c'est que la situation budgétaire des universités, aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs années de politique austéritaire sur le budget des universités et de l'enseignement supérieur en général. Et que ce n'est pas comme ça qu'on pourra résoudre ce souci-là. Et après, le deuxième souci, ce serait le fantasme que les étudiants internationaux profiterait absolument de la France. Et donc j'aimerais rappeler que déjà j'ai déjà évoqué la richesse culturelle, scientifique, notamment du point de vue de la recherche et du rayonnement des laboratoires français et tous les apports des étudiants internationaux. Et ensuite, c'est l'autre réalité, c'est que les étudiants internationaux consomment en France, la plupart travaillent en France ensuite. Et il y a une étude de Campus France qui est l'agence du ministère, donc c'est pas n'importe quelle source, qui estime que chaque année l'économie française se voit apportée par les étudiants internationaux 1,35 milliard d'euros, c'est-à-dire que les étudiants internationaux dépensent plus et achètent plus dans les commerces français qu'ils ne coûtent à l'État. Et donc il n'y a aucun autre argument que la xénophobie qui justifie ce projet de décret-là, et c'est ce qu'on dénonce.
On se demande si le ministre a lu du coup l'étude que vous évoquez.
Je pense.
J'espère pour lui. Et pour aller un petit peu plus loin, quelles sont les principales difficultés pour des étudiants internationaux? On a parlé donc des APL, on sait qu'ils n'ont pas accès à des bourses. Quels sont les défis un peu pour un...
Ce qui rend cette mesure particulièrement dangereuse, c'est que les étudiants internationaux et internationales sont particulièrement précaires. Alors déjà, les étudiants de nationalité française sont beaucoup à rencontrer des difficultés importantes. Et en proportion, c'est encore pire pour les étudiants de nationalité extra-européenne. Cette précarité, elle s'explique par de nombreux facteurs. D'abord, il y a une précarité économique. Les étudiants internationaux arrivent en France souvent seuls. Ils sont exclus de tout le système d'aide sociale en France. Et donc, notamment, ils n'ont pas accès aux bourses du CROUS. C'est pour ça que y a des chiffres sur la précarité qui explosent. Nous, dans notre agorée dont j'ai parlé au début, notre épicerie solidaire étudiante, on accueille 80% d'étudiants qui ne sont pas de nationalité française, qui sont internationaux. Donc ça montre bien que c'est un public qui est particulièrement fragile. Et après, l'autre source de stress au quotidien de ces étudiants, à part la précarité économique, c'est la précarité administrative. Il faut faire des renouvellements de titres de séjour qui sont tous les ans particulièrement compliqués. Le timbre fiscal, qui est un document nécessaire pour faire cette demande à la préfecture, a vu son prix doubler cette année. Il est passé de 75 à 150 euros, encore un poids supérieur, une taxe qu'on vient prendre aux étudiants internationaux et internationales.
Et donc, pas que, mais aussi à
oui,
eux.
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est les premiers visés, parmi le public étudiant.
Oui.
C'est les premiers qui en souffriront. Où est-ce que j'en étais? Cette précarité administrative, des étudiants qui vivent avec parfois le stress d'avoir loupé un délai de quelques jours et d'avoir le risque que le titre de séjour ne soit pas renouvelé alors qu'ils sont juste venus pour étudier, que c'est probablement des futurs travailleurs en France, des futurs professionnels de santé qui apportent à la société et qui se voient parfois sous l'égide d'une OQTF sans raison autre qu'un manque de moyens à la préfecture ou une démarche administrative qui n'a pas été faite exactement parfaitement.
Et tant que vous êtes là, c'est un peu l'opportunité aussi. J'imagine, potentiellement, je suis un étudiant étranger ou j'écoute en tout cas la matinale ce soir. J'ai des problématiques administratives. Comment je peux me tourner vers quelle association, quels sont mes droits, etc. etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Alors, il y a quand même quelques aides qui sont autorisées, qui sont ouvertes aux étudiants internationaux, notamment des aides ponctuelles. Beaucoup d'universités donnent des aides ponctuelles. Donc j'invite les étudiants à se renseigner sur le site de leur université, sur le site du CROUS aussi. Pas hésiter à prendre rendez-vous avec le service social du CROUS. Et ensuite, les associations étudiantes sont là sur les campus aussi pour accompagner et rediriger. Et nous, on est joignable à l'adresse mesdroits@ageparis.org. Donc voilà, et on pour accompagner de façon anonyme, confidentielle, évidemment, tous les étudiants qui auraient n'importe quelle question, problématique, qu'ils soient internationaux ou non. Voilà.
Super, c'est super intéressant. Merci beaucoup d'être venu ici. On peut rappeler donc la mobilisation, je veux bien que vous la rappeliez.
Le mardi 12 mai à midi devant Jussieu. Okay. Et ailleurs en France aussi, auquel on vous attend nombreux et nombreuses.
Super, bah merci beaucoup d'être venu dans la matinale, monsieur Lé. C'était un plaisir et c'était très instructif.
Merci à vous, Shilan et Betty, pour ces informations, il faut le dire. Et tout de suite, on va passer au Flash Info avec un petit jingle.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir Patrick, bonsoir à toutes et à tous. Voici les actualités à retenir de ce mercredi 6 mai.
Alors, tu commences avec une multinationale états-unienne qui étend encore un peu plus son empire en France.
Et oui, le géant de l'e-commerce Amazon a annoncé hier un investissement de plus de 15 milliards d'euros sur 3 ans en France, accompagné de la création de plus de 7000 emplois en CDI, et ce dès cette année avec l'ouverture prochaine de 3 centres de distribution dans l'Hexagone. La multinationale a souligné qu'il s'agissait du plus gros investissement jamais réalisé en France, où Amazon emploie actuellement plus de 25 000 travailleuses en CDI, dont les conditions de travail sont régulièrement dénoncées. En février dernier, le syndicat Solidaire appelait par ailleurs à une mobilisation contre la répression antisyndicale subie par ses représentants de la part d'Amazon.
Dans le détroit d'Hormuz, un navire attaqué chez Donald Trump fait marche arrière.
L'armateur français CMA CGM a confirmé ce matin qu'un de ses porte-conteneurs avait fait l'objet d'une attaque mardi soir dans le détroit d'Hormuz, occasionnant plusieurs blessés parmi les membres d'équipage, ainsi que des dommages au navire. Ce n'est en aucun cas la France qui a été visée, a assuré ce midi Emmanuel Macron par la voix de la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon. Une attaque qui intervient au lendemain du lancement ce lundi de l'opération Projet Liberté de Donald Trump, qui vise à escorter les navires bloqués en dehors du détroit d'Hormuz. Une opération finalement suspendue dès le lendemain soir, après à peine 24 heures, en raison, je cite, des grands progrès accomplis en vue d'un accord complet et définitif avec les dirigeants iraniens. A déclaré le président états-unien, qui précise toutefois que le blocus des ports iraniens reste maintenu.
En Roumanie, le gouvernement renversé par une motion de censure.
Le Parti social-démocrate roumain, le PSD, et le parti d'extrême droite Alliance pour l'unité des Roumains, AUR, se sont alliés hier dans le vote d'une motion de censure qui a fait chuter le gouvernement de coalition du premier ministre libéral Ilie Bolojan. Une coalition dont faisaient d'ailleurs partie les sociaux-démocrates avant d'en claquer la porte le 23 avril en faisant démissionner ses ministres pour protester contre les mesures d'austérité mises en place par Bolojan. Cette motion de censure a été coproduite par les sociaux-démocrates et l'extrême droite. Une alliance qui veut au PSD de vives accusations émanant du centre droit roumain de briser le cordon sanitaire et de légitimer une extrême droite en plein essor dans le pays.
On va également retourner en France avec l'interdiction d'une manifestation néo-fasciste à Paris ce week-end.
La préfecture de police de Paris a annoncé hier l'interdiction du défilé du comité du 9 mai ou C9M, une réunion annuelle des mouvements néo-fascistes français et européens qui devait se tenir ce samedi dans la capitale. Entre les saluts nazis et les tambours aux couleurs des jeunesses hitlériennes, ce défilé fait scandale depuis plusieurs années, ce qui lui a déjà valu des arrêtés d'interdiction en 2024 et 2025 qui avaient finalement été cassés en justice, autorisant de fait le défilé à arriver. Un scénario qui pourrait à nouveau se reproduire cette année. Une riposte antifasciste était également prévue sous le mot d'ordre « Pas de nazis dans Paris » avec un village antifasciste sur la place du Panthéon vendredi après-midi et une contre-manifestation samedi à 14h au départ de Saint-Michel. Ces deux événements font également l'objet d'une interdiction préfectorale au motif de risque d'affrontement avec les néo-fascistes, mais les organisateuristes annoncent le maintien de ces deux événements malgré tout.
Voilà, on va prendre une légère respiration avec une très belle mélodie, celle de Rouge Bétadine. C'est le Rouge Bétadine de Gaël Joly, bien évidemment.
Ça me vexe depuis l'incendie, je vois ton ombre et son regard, me demande de partir à un monde entre l'eau salée d'une mort noyée ou de vacances atomiques. Ça me part, je cligne tes yeux à tout phare sans rire, à moi de plus sans vie. Ça me touche assez pour me défendre, mes rêves sont proches comme je lèche ma carte. Ramène-moi si
autre chose pour un mot. Mais qu'est-ce que t'as l'essentiel? Ça me vexe depuis l'incendie. J'ai le sang qui monte, j'ai la boule au ventre. Je le sens et même loin devant. Combien l'air a pris l'odeur de l'essence? J'aime mieux quand tout va très vite. Si je marche en rythme et je marche en rythme, je veux plus attendre, ça me dessert. Mes rêves sont proches comme je déchends ma carte.
C'était une chanson, bien évidemment, de Gaëlle Joly. Place à la chronique actu.
La matinale de 19h.
C'est avec Eve. C'est elle qui va signer la chronique actu de cette matinale.
Merci Patrick. Dimanche 10 mai sera célébrée la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, promulguée par Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, il y a 25 ans. Cet anniversaire vient à point nommé après le vote des Nations Unies sur la reconnaissance de la traite transatlantique comme le plus grave crime contre l'humanité. La France s'est abstenue de voter, ce qui peut être compréhensible car le gouvernement français a émis l'hypothèse qu'il ne peut y avoir de crimes plus graves que d'autres. Pourtant, il n'est aucunement lieu de comparer les atrocités commises. Le gouvernement vient surtout nier l'héritage colonial de notre pays. Mais concrètement en France, où en sommes-nous ? D'après les sources de Mediapart et du CNRS, le président Macron et son premier ministre n'ont pas d'agenda clair sur l'évolution des commémorations. Christiane Taubira avait promu dans son texte de loi le projet de réparation il y a 25 ans. Étrangement, à cette époque et quelques semaines après, cet anniversaire correspond aux premières émeutes causées par la tragédie de Bouna Traoré et de Zied Bena. Comment se traduisent ces réparations ? D'abord, ce sont des réparations morales, comme présenter des excuses officielles. Celles-ci n'ont toujours pas été prononcées. Elles sont dénoncées par de nombreuses associations ainsi que par Jean-Marc Ayrault, ex-premier ministre. Les mauvaises langues diront que cela engendrerait des réparations financières, qui s'élevaient à l'époque à 20 millions d'euros, réfutées par la justice française. Cela incriminerait surtout le rôle de l'État. Cela demande par exemple de rendre des œuvres aux anciens pays colonisés. Un des nombreux arguments avancés quant à la rétribution des œuvres africaines est que les œuvres seraient moins bien conservées. Qui sommes-nous, occidentaux et européens, pour juger de ce que doit faire un pays ou un peuple de ses œuvres ? Ne parlons pas non plus du cas très particulier d'Haïti, endetté jusqu'au cou. La dette a plutôt profité beaucoup plus aux ex-esclavagistes qu'aux anciens esclaves. Haïti ne peut se débarrasser de cette dette, elle pourrait être annulée aujourd'hui. Mais cela demanderait compensation. Personne n'est prêt à rembourser Haïti. Une des familles et sociétés descendantes d'anciens esclavagistes possède les accès à la Tour Eiffel en finançant sa construction avec l'argent d'Haïti. Elle s'appelle la CIC. Si, vous avez bien entendu. De nos jours, ces refus de réparation ont des conséquences systémiques et structurelles dans notre société. Malgré l'élection de maires tels que Bali Bagayoko, ce dernier a été victime de lynchage médiatique. Tiens, lynchage vient de l'esclavage. Et de stéréotypes racistes et négrophobes. Bouna Traoré et Zied Bena ont été d'abord victimes du racisme ambiant, clichés des banlieues, manque d'informations dans la presse. Nous, citoyens, avons appris récemment que Bouna et Zied sortaient du foot. Ils étaient simplement au mauvais endroit et au mauvais moment. Le 9 avril 2026, un récent sondage de la LICRA IFOP a fait apparaître que 46% des Français se sentent victimes du racisme, dans la vie de tous les jours, au travail ou pour chercher un logement. Cela pose une vraie question sur notre société française. Le racisme a toujours existé, il a encore de beaux jours devant lui. Il serait temps qu'Emmanuel Macron sorte du silence et tienne une feuille de route convenable sur la mémoire coloniale de la France, inscrire l'esclavage dans notre mémoire collective. Un mémorial dédié aux victimes de l'esclavage devrait voir le jour au pied de la Tour Eiffel en 2027. La prochaine fois, réfléchissez bien à deux fois lorsque vous voudrez visiter la Tour Eiffel.
Merci Ève. Prochaine escale, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Aujourd'hui, nous parlons du festival Cours d'envoi et Iske est avec Valentin Valérie. Bonjour à vous deux.
Bonjour, merci de l'invitation.
Bonjour, nous avons aujourd'hui le plaisir de nous entretenir avec Valentin Valérie, volontaire en service civique de la 8e édition du festival Cours d'envol. Ce festival créé en 2018 est dédié aux jeunes cinéastes et a pour objectif de leur offrir un espace où ils peuvent présenter leurs talents et leurs créations. L'édition de cette année se tiendra le 30 mai au Centre Paris Animatis, situé dans le 19 arrondissement de Paris. Bonsoir et bienvenue Valentin.
Bonsoir.
Nous savons que ce festival de court-métrage est créé en 2018. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement comment il est né et pourquoi ?
Alors, pour certains éléments de contexte que les auditeurs n'auraient forcément pas, les centres Paris Animes, c'est des centres socio-culturels d'éducation populaire gérés par différentes associations. En l'occurrence, le centre où je travaille, il est géré par la Ligue de l'enseignement. Tous les centres proposent aux usagers des activités assez diverses et variées. Ça peut couvrir le champ des arts plastiques, de la musique, du sport, de l'écriture de scénarios. Des activités payantes en fonction du coefficient familial. Et on propose aussi en parallèle un programme autour de films et de spectacles adaptés pour tous les publics et en grande majorité assez gratuits. Pour répondre à votre question, Cours d'envol, c'est un festival de courts-métrages étudiants et d'étudiantes ouvert aux jeunes professionnels qui se déroule dans le centre depuis 2018. Et en fait, on est parti du constat qu'il existe des festivals de courts-métrages, de nombreux à Paris, mais pour différencier, on a voulu valoriser les premières réalisations, les premiers films comme Un certain regard à Cannes, en certain sens, tous issus de la jeune création. C'est des œuvres assez confidentielles, très peu mises en avant. On veut vraiment rendre visibles des œuvres qui ne sont pas assez, voire pas du tout diffusées, qui sont souvent réduites à des festivals professionnels. On veut vraiment donner l'opportunité à des jeunes cinéastes, étudiants, étudiantes, qui ont fait des études, de diffuser leur œuvre dans une salle digne de ce nom, devant un public large et varié, avec un jury professionnel pour valoriser leur travail.
C'est très très bien. Et maintenant, moi je voulais vous demander, pour une personne qui n'a jamais assisté au cours d'envol, que peut s'attendre le 30 mai ? Qu'il va voir ?
Alors c'est simple, c'est une soirée qui se déroule pendant 4 heures. Il y a 10 films assez variés. On essaie vraiment de faire une sélection plus complète possible, que ce soit du film d'animation, du clip musical, du documentaire et de la fiction. Un peu de teasing. Et il y aura l'avantage aussi, c'est un grand atout aussi dans le festival, c'est le vote. Il y a un jury qui va voter et aussi le public qui va voter pour leur œuvre préférée pour deux prix distincts. Pour le prix du public, ce sera 300 € et pour le prix du jury, ce sera 500 € pour des cadeaux comme des chèques cadeaux. Et aussi, d'autres choses, par exemple des places de cinéma, des places d'exposition, aussi des places d'abonnement. Je dis ça parce qu'on a aussi des partenaires de longue date et assez privilégiés comme la Cinéthèque française et la Cinéthèque.
Ok, c'est très bien. Par rapport à ce que vous avez dit, je m'en demandais, quelle est la capacité d'accueil de l'événement ?
On peut accueillir 103 personnes.
Et c'est entrée gratuite, comment on peut avoir accès ?
Alors, gratuite. Ce que je conseille aussi aux auditeurs et auditrices, c'est vraiment de réserver sur la page Instagram du festival. Vous tapez cours d'envol tout attaché et comme ça, vous pouvez accéder au lien With Event pour pouvoir réserver votre place.
Très bien. Mieux. En ce qui concerne les courts-métrages, combien vous sont recevés par an ? Vous savez un nombre ?
Alors là, on en a reçu énormément. On en a reçu de mémoire plus de 80. Bon, évidemment, on a dû trier parce que voilà, il faut savoir trier, il faut savoir choisir le bon film. Mais on en a reçu plus que la moyenne par rapport aux éditions précédentes.
Aux éditions précédentes, vous avez reçu plus ?
On en a reçu à peu près moins, ça a été moins. Mais là, avec plus de visibilité, on a réussi à en attirer plus.
Très bien. Et une fois que vous avez visionné tous les courts-métrages, quels critères utilisez-vous pour sélectionner ceux qui seront projetés ?
Alors, on a plusieurs critères. Déjà, le premier, c'est la durée. On ne veut pas de film qui dépasse plus de 12 minutes. C'est notre volonté propre. On veut essayer de faire vraiment un programme qui ne soit pas trop surchargé pour le public et pour le jury, mais qui soit suffisant pour pouvoir passer un très bon moment. L'âge. On veut vraiment privilégier la jeune création. C'est pour ça qu'on s'attarde sur la tranche d'âge 18-25 ans. Troisième critère, c'est aussi le fait d'être étudiant et étudiante, ayant fait des études. Je tiens aussi à préciser que ce n'est pas limité au cursus cinéma. C'est vraiment ouvert aux gens qui font autre chose, de la biologie ou de la médecine. Et enfin, le quatrième, alors après, c'est plus un critère personnel, c'est vraiment on porte un soin, attention à la mise en scène aussi. C'est aussi un truc assez important. Ce qui fait la marque vraiment de grands cinéastes. On retient vraiment certains plans de certains films.
Alors, par rapport au contenu, vous n'avez aucun critère que vous pouvez mentionner ?
Je ne sais pas pourquoi la question. T'inquiète
pas. Et moi aussi, je me demandais... qu'il y a entre la date de limite, c'est le 31 mars,
oui.
Et après la remise des prix, c'est le 30 mai. Il y a deux mois environ entre ceux-là. Et comment vous vous organisez pour voir visionner tous les films et combien de personnes c'est dans le processus ?
En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on regarde par ordre d'arrivée. En fait, c'est ce qui nous permet d'avoir une organisation plus simple et plus fluide. Ensuite, on regarde les films avec l'équipe du festival, c'est-à-dire qu'on est trois personnes, et on en débat, on essaie de voir quelles sont en majorité les qualités, et ensuite on a un long débat pour savoir qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on ne prend pas.
Et par rapport à cela, vous faites les débats pour chaque film ou vous réunissez après avoir tout ?
Alors, pour chaque film, on en débat. Et ensuite, après, on regarde dans le passé ce qu'on a regardé précédemment. Et ensuite, on dit, bon, ça on prend, ça on prend pas.
Alors, dans ces processus, vous êtes trois,
oui,
et trois. Avec vous.
Oui, okay. Oui, c'est... je vais les citer. Donc, il y a moi, évidemment. Il y a aussi monsieur Cyril Boussan qui fait principalement l'organisation de la soirée, le visionnage des films et la réception des candidatures,
okay,
ainsi que la projection. Et ensuite, Mathilde Boussan, qui aussi coordonne toute l'équipe.
Très bien. Et je m'en demandais aussi, quel est le genre de court-métrage que vous recevez le plus souvent ?
C'est compliqué à dire, parce qu'après, voilà, comme on dit, on ne veut pas limiter le festival à un genre. On essaie d'être vraiment le plus éclectique possible. On a reçu énormément de films d'animation, énormément de documentaires et énormément de fiction. Et ensuite, entre les gouttes, il y a aussi les clips musicaux qui restent vraiment un vrai vivier d'expérimentation, que ce soit visuel et sonore. Pas musical, vraiment sonore.
Et vous avez un préféré ?
Ah, c'est vraiment un choix cornélien. Non, je fais un petit teasing. J'incite vraiment aux gens qui nous écoutent d'aller sur Instagram, comme ça vous avez le détail de toute la programmation. Mais s'il y a un film que je pourrais retenir, c'est La Veuve du Marin, qui est vraiment une pépite queer. Vraiment, si vous y allez, si vous le regardez, vous ne le regretterez pas. À lui seul, il vaut le déplacement.
Maintenant, on va revenir plus particulièrement sur vous, si vous me le permettez.
Oui, oui.
Et moi, je voulais savoir en quoi ça consiste votre travail dans le sein du festival.
Alors en fait, moi, je suis venu en tant que service civique. Donc, c'est sur des contrats sur 6 mois. Et principalement, on fait principalement les travaux autour de communication, autour des réseaux sociaux. On fait de l'aide, en tout cas. L'aide aussi au visionnage et à l'envoi de mails aussi. Et aussi, principalement, aussi de la médiation culturelle, puisque vu qu'on est dans un centre, ça nous arrive de mettre un peu la main à la pâte sur certaines soirées, notamment sur l'organisation.
Et par rapport le jour du festival, vous avez quelques travails dedans, le 30 mai ?
Oui, après, voilà, c'est comme j'avais dit ça précédemment, c'est vraiment
l'accueil
et la présentation. C'est moi qui m'en occupera.
Parfait. Et comment percevez-vous l'état actuel du cinéma ? Pensez-vous que les nouvelles générations de cinéastes ont un avenir prometteur ou que les meilleures années du cinéma sont déjà derrière nous ?
Non, j'adopte pas ce discours nostalgique qui est c'était mieux avant. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça me paraît très très désuet. C'est les gens qui disent ça, quand ils disent le cinéma est mort ou disent il y a plus rien au cinéma, c'est clairement des gens qui vont pas vraiment au cinéma. On voit qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Après, il y a des choses, voilà, on peut critiquer ou pas, ça appartient à chacun. Moi, j'ai un avis plus tranché là-dessus. Mais vraiment, ce qui est bien dans le cinéma actuel, notamment dans le cinéma français, c'est qu'il y a vraiment un énorme vivier de talent, en fait. Et c'est ça qu'il ne faut pas les perdre, en fait. Il y a vraiment une vision, il y a vraiment une patte. J'ai mis l'exemple en tête, mais je serais incapable d'en citer un. Mais je ne sais pas, je pense à un cinéaste comme Yann Gonzalez ou Bertrand Mandico, quoi, qui font des super films ambitieux et qui ont un vrai message ou qui ont une vraie vision plastique.
Et vous avez été toujours passionné au cinéma ou cela a commencé depuis très peu?
Non, dans les souvenirs, ça a commencé tôt. Hein, ça avait commencé avec La Belle et la Bête de Cocteau que j'avais vu quand j'étais assez jeune en salle de cinéma. Je rassure, pas en 47, hein, c'était vraiment en 2015. Quoi. Non, c'était le premier cinéma et depuis, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté de regarder les films. Encore aujourd'hui, je vais encore principalement au cinéma.
Et c'est à cause de cela que maintenant vous travaillez dans ce domaine?
Oui, c'est toujours un domaine qui me passionne autant, qui me passionnera toujours. Hein. C'est comme un virus, quoi, vraiment. Mais là, pour le coup, c'est un virus positif et qui fait du bien.
Et bon, pour finir, pour conclure, que direz-vous aux jeunes cinéastes qui hésitent à participer dans ce festival comme cours d'envol?
De l'audace et de l'énergie.
Oui.
Ouais, ce serait le maître mot.
Bon, parfait. Merci beaucoup.
Bah, merci à vous. C'était un plaisir d'intervenir. C'était un plaisir de vous recevoir.
Voilà, merci à Valentin, Valérie et Iske. Et nous aimons bien le cinéma. Hein. Régalons-nous avec cette musique de Innocent. Cette musique Innocent de Kezia. C'est une chanson de Kezia, le titre Innocent. La chronique libre, c'est tout de suite.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Salut Jonas.
Salut.
Aujourd'hui, tu nous amènes dans le New York underground des années 90 et son héritage dans la pop culture.
Exactement. Alors, je me suis posé la question suivante. Quel est le point commun entre le film Marty Supreme, le DJ Tequila Tex et le mot goon? C'est une question que personne ne s'est jamais posée, mais à laquelle je vais tout de même répondre. Le mot goon a différentes définitions. Il a aujourd'hui perdu sa signification originelle et a désormais une connotation sexuelle, mais à la base, un goon, ça désigne dans l'argot états-unien une personne issue des classes populaires de grands centres urbains et de banlieues pauvres. Comme le veut la définition donnée par le journaliste et auteur Karim Madani en introduction de son livre « Jewish Gangsta » publié en 2017. Dans ce contexte, le mot « goon » a été utilisé pour désigner un mouvement underground new-yorkais. Ce mouvement naît à la fin des années 80 à Brooklyn. Les acteurs de ce mouvement sont souvent des enfants d'immigrés juifs, polonais et ukrainiens. Ce courant est principalement oral, puisqu'il inspire s'inspire d'histoires de gangs. Les principaux intéressés ont parfois même changé d'identité. Néanmoins, certains ont préféré se réfugier dans l'art. Dans le mouvement goon, on y retrouve notamment Nekro, qui popularise le mouvement en utilisant très fréquemment le mot goon dans ses œuvres. Nekro est un touche-à-tout. Il est à la fois producteur, compositeur, rappeur, réalisateur et, à de plus rares occasions, acteur. Il joue notamment dans deux films des frères Safdie, dont Good Time, dans lequel on retrouve également Robert Pattinson. Cette collaboration entre Nekro et les frères Safdie fait sens, car elle est dans la continuité du mouvement goon. Les personnages des frères Safdie sont eux-mêmes issus des classes populaires juives new-yorkaises qui tentent de se débrouiller tant bien que mal, comme c'est le cas de Nekro et des acteurs du mouvement goon. L'impact du mouvement aujourd'hui se retrouve alors encore dans la pop culture. Il y a tout juste un mois sortait le film Marty Supreme de George Safdie, moitié du duo des frères Safdie, dont le personnage principal, joué par Timothée Chalamet, semble inspiré par ces histoires de goon. On y retrouve un jeune pongiste issu d'une famille juive new-yorkaise, à l'ego démesuré, qui commet des méfaits afin d'aller au fond de ses ambitions. De nombreux artistes rap se sont aussi inspirés du mouvement goon. En France, l'ambassadeur, c'est Tequilatex. Bien qu'il soit désormais DJ de techno, il importera le mouvement lorsqu'il rappait dans les années 2000, notamment en reprenant un morceau de Nekro sur son deuxième et ultime album. La boucle est donc bouclée, et pour aller plus loin sur cette histoire de goon, je recommande le livre Jewish Gangsta de Karim Madani, qui raconte trois destins croisés, dont celui de Nekro et de son frère dans l'enfer de Brooklyn des années 90. Merci de m'avoir écouté.
Voilà, c'est ici que prend fin l'émission La Matinale de ce mercredi. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à Ilan Lé, notre invité, interviewé par Betty. Merci à Valentin Valérie avec Iske pour le Zoom. Merci à Pierre Alexandre pour le Flash Info. Merci à Eve pour la chronique Actu. Et merci à Jonas pour la chronique Libre. Et merci à Léna, surtout à la réalisation. On va se retrouver lundi pour une nouvelle matinale à 19h sur Radio Campus Paris 99 93.9. Derrière ce micro, c'était Salomon Patrick. Passez une excellente soirée et à lundi.